أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد. Donc le messager de Allah صلى الله عليه وسلم a dit: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. C'est-à-dire, celui pour qui Allah veut le bien, il lui facilite l'apprentissage de la religion. Et il a dit aussi, إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمُ. C'est-à-dire, certes, la science de la religion s'acquiert par transmission orale. Donc la science de la religion s'acquiert de gens de confiance par transmission orale. Ce n'est pas par des simples lectures à droite et à gauche ou des simples recherches sur Internet. Donc ça prend de gens de confiance. Donc on a vu la fois précédente le cours « L'islam est la religion de tous les prophètes ». L'islam est la religion que Dieu a révélée à tous les prophètes. Tous ils ont une même croyance qui est l'islam, une même religion. Tous y croient que Dieu il est unique, qu'il n'a pas d'associé, qu'on ne peut pas l'imaginer, qu'il existe avant l'espace, le temps. Rien n'est tel que lui et rien n'a de ressemblance avec lui. On ne peut pas atteindre sa réalité, on ne dit pas où, ni quand, ni comment à son sujet. Donc ça c'est l'enseignement de tous les prophètes, que Dieu entend, y voit, sans organe, qu'il parle sans langue ni lèvres, qu'il n'a pas de début, qu'il n'a pas de fin, qu'il ne change pas, qu'il n'a besoin de rien, qui sait toute chose avant qu'elle n'arrive, qu'il est le créateur de tout, qu'il a le vouloir sur tout. Tout ce qui arrive, c'est selon sa volonté éternelle qui ne change pas. Il est le créateur de nos actes, nos idées, notre volonté, nos sentiments, de chaque instant, de chaque perception, des corps et de leurs caractéristiques. Et on a vu ce qui change entre les prophètes messagers, c'est des lois. Donc certaines lois changent, on a vu. Et la langue des prophètes, ils sont pas tous arabes les prophètes, il y a que 4 prophètes arabes. Hud, Saleh, Shu'aib et Muhammad. Donc on a parlé aussi des attributs de Dieu, qu'il entend, qu'il voit, qu'il est vivant sans cœur, ni âme, ni chair, qu'il est unique, qu'il n'a pas d'associé, qu'on peut pas l'imaginer, qu'il sait tout, etc. On a parlé de cela. Et celui qui attribue à Dieu la forme, la quantité et la localisation, même si la personne a mal compris un verset et qu'elle a attribué à Dieu l'impuissance ou l'incapacité ou le changement ou l'humeur ou tout ce qui est des caractéristiques des créatures, donc ceci est un blasphème qui annule l'islam de la personne. Donc faire attention aux mauvaises traductions qu'on trouve malheureusement propagées. Du fait que c'est des gens, ils traduisent mal, ils bâclent, parce que ces gens-là, eux-mêmes, ils n'ont pas appris la science de la religion. Ils traduisent mot à mot, ils attribuent à Dieu la colère, en traduisant sur le Fatiha, ils attribuent à Dieu la position assise ou l'établissement sur un trône, en comprenant mal des versets. Or, donc la croyance musulmane, Dieu n'est pas attribué de ces choses-là. Et les versets nécessitent une interprétation correcte. Comme en français il y a des métaphores et des sens figurés, l'arabe aussi. Donc il y a des sens figurés, il y a des tournures, etc. La rhétorique. Donc on verra d'ailleurs en parlant aujourd'hui de la préservation, la préservation, les attributs et les caractéristiques des prophètes et messagers. Donc Dieu a fait des prophètes les meilleurs des créatures. Et on l'a dit, l'habitude des savants d'expliquer sur les attributs de Dieu, les attributs des prophètes, et ceci dès le jeune âge. Notamment dans le livre qu'on a cité, Matn ibn Ashr, qui est très connu au Maghreb, enseigné avant la colonisation beaucoup moins après, bien évidemment. Et dans d'autres, dans la région, comme l'Égypte, le pays de Cham, il y a d'autres manuels enseignés par donc les savants sur ces fondements-là, les attributs de Dieu, les attributs des prophètes. Les prophètes sont les meilleurs des créatures. Allah dit dans le Coran, donc, وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ce qui signifie, nous les avons tous élevés par rapport au reste des mondes. C'est-à-dire, ce sont les meilleurs des créatures, les prophètes. Ils sont meilleurs que les anges et que le reste des humains. Et il y a des prophètes meilleurs que d'autres, comme c'est dit dans le Coran aussi, Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. C'est-à-dire les prophètes, Dieu leur a accordé des degrés supérieurs les uns aux autres. Donc Dieu a envoyé les prophètes pour qu'ils enseignent aux gens ce qui est de leur intérêt dans leur vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ce sont donc des guides pour les gens. Et Dieu a fait d'eux les meilleurs des créatures. Donc on a vu le verset. Donc ce sont les meilleurs des créatures. Ils sont mieux que l'ange Jibril, qui est le président des anges. Les anges ne désobéissent pas à Dieu, ils ne sont ni mâles ni femelles, ils ne se reproduisent pas, ils ne mangent pas, ils ne dorment pas. Ils font que l'adoration de Dieu, ils font les cinq prières. Mais Dieu a accordé aux prophètes un statut supérieur. Par le fait qu'il a donné dans le cœur des prophètes, il a mis la crainte, la plus grande crainte de Dieu. Donc le mérite, c'est par ce que contient le cœur comme crainte. Et le Muhammad, alayhi salam, est celui dans le cœur qui a le plus de crainte de Dieu. Donc la crainte de Dieu, c'est ce qui te permet d'apprendre la religion, de pratiquer. Ce n'est pas le simple fait juste de pleurer. Donc c'est ce qui permet, la vraie crainte te permet d'avoir peur de Dieu, d'apprendre sa loi comme il faut, de consacrer du temps pour l'apprendre de la bonne manière, de gens de confiance, de chercher les gens de confiance et pratiquer cela. C'est ce qui permet la crainte. La vraie crainte de Dieu. Donc les prophètes, ils ont le plus de crainte de Dieu. Dieu a mis dans leur cœur le plus de crainte. Donc Dieu accorde bien sûr le mérite à qui il veut. C'est une règle qu'on a répétée plusieurs fois. Dieu n'est pas obligé d'accorder quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc c'est une grâce de Dieu, la prophétie que Dieu a accordée à certaines créatures. Donc c'est une règle dans la croyance des prophètes qu'on appelle la croyance sunnite. Dieu n'est pas obligé d'accorder à l'être humain ce qui est le mieux. Dieu accorde par sa grâce et prive par sa justice. Et on rappelle toujours de mettre la bonne intention par recherche de l'agrément de Dieu et renouveler la bonne intention. Pour avoir les récompenses, il faut nécessairement avoir la bonne intention en recherchant l'agrément de Dieu. Dieu, celui qui accorde l'extrême bienfait, l'existence, le fait de respirer, d'exister, de voir, est celui qui mérite donc l'extrême soumission, l'adoration, l'extrême soumission. Allah Ta'ala dit, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, c'est-à-dire, si vous essayez de dénombrer les bienfaits que Dieu vous a accordés, vous n'y arriverez pas. Donc, chacun des prophètes est meilleur que tous les anges et que tout le reste des créatures, car les mondes englobent les hommes, les djinns et les anges. Les prophètes sont les meilleurs des créatures, ils ont les bons caractères dans la véracité, l'honnêteté et l'extrême intelligence. Il leur est impossible le mensonge, la trahison et la stupidité. Ils sont préservés de la mécréance, des grands péchés et des petits péchés de bassesse. Ils ont tous un beau visage, une belle voix. Ils sont préservés des maladies repoussantes. Donc ils sont véridiques, ils ne mentent jamais, les prophètes. Donc faire attention, il n'est pas permis d'attribuer aux prophètes le mensonge. Donc on va voir certains faits rapportés, comment les savants ils les ont interprétés. Donc il faut savoir, la religion, c'est pas regarder des livres à droite à gauche, attribués à des savants, et donner des règles suite à cela. C'est pas comme ça. Déjà maintenant, les livres que les gens accèdent, la majorité des livres, c'est des choses imprimées sur un logiciel Word, la plupart du temps, et des maisons d'édition qui c'est des gens qui travaillent à but lucratif en fait. Les maisons d'édition, ils sont là pour gagner de l'argent avant tout. Et donc il faut savoir, même les savants, quand ils font référence à des livres, c'est des manuscrits validés, vérifiés, comparés à plusieurs manuscrits. Ils vérifient même la chaîne de qui a écrit le manuscrit, etc. Alors, en aucun cas, un simple exemplaire imprimé par une maison d'édition imprimée par un logiciel, etc., ça, c'est en aucun cas n'est une référence. Donc faire attention, il y a des gens, ils s'égarent comme ça. Ils comparent plusieurs livres, plusieurs choses sur Internet. Il faut savoir, à l'ère de l'informatique, une erreur, on peut la copier en un clic un million de fois. C'est pas parce qu'on voit plein de sites sur qu'il y a un sujet dans plein de sites que ça veut dire que c'est vrai. Parce que maintenant, une erreur, ça se copie rapidement avec l'ère de l'Internet et avec l'ère de l'imprimerie. N'importe qui peut imprimer. Maintenant, en ligne, avec une carte bleue, tu peux imprimer un million d'exemplaires. Juste, il faut avoir assez d'argent. Livraison, et tu fais rien. Quelques clics, t'envoies un PDF et tu écris ce que tu veux. Donc, la religion, c'est par transmission. Donc, il n'est pas permis donc d'attribuer au prophète ce qui n'est pas digne d'eux. Parce qu'il y a des gens, ils attribuent au prophète des choses qui sont pas dignes d'eux. Donc les prophètes, ils ne mentent jamais. Donc on apprend les règles toujours. Comme les compagnons, dans le hadith, on l'a vu, ils ont appris avec le prophète les règles de la croyance avant d'apprendre le Coran. Donc le prophète, le meilleur enseignant, le meilleur guide, le meilleur homme, il a enseigné de cette manière. Il leur a enseigné d'abord la croyance. Et les prophètes, ils font ça aussi. On verra aussi le prophète Youssef quand il était emprisonné injustement. Et quand des gens lui posent une question sur l'interprétation d'un rêve, il répond pas tout de suite. D'abord, il leur explique la croyance que Dieu est unique, qu'il n'a pas d'associé. Parce que les prophètes, ils savent ce qui est prioritaire d'abord. Ce qui est le plus profitable aux gens d'abord. Donc ils sont véridiques, ils sont honnêtes, ils trahissent jamais les prophètes. Ils sont extrêmement intelligents, les prophètes, ils sont pas stupides. Ils répliquent pour pouvoir répliquer. Comme le prophète Ibrahim, quand il a répliqué à celui qui se prétendait Dieu, il lui a dit c'est quoi, c'est qui ton Dieu, cet mécréant là, ce roi. Il a dit: mon Dieu, celui qui donne la vie, il donne la mort. Donc alors l'homme stupide, il a dit: ramenez deux prisonniers, ils sont condamnés à mort, celui-là je le libère. Il a dit: je lui donnais la vie, celui-là j'exécute. Donc il est stupide. Donc il n'a pas compris que ça c'est une simple cause. Tuer, c'est une simple cause. C'est pas créer la mort. Donc c'est Dieu qui crée la vie, la mort, qui fait passer les choses du néant à l'existence. Mais le fait que quelqu'un tue, ou la nourriture, ou le poison, c'est des simples causes. Sayyidina Ibrahim l'a jeté dans le feu ne l'a pas brûlé. Donc Sayyidina Ibrahim, très intelligent, il n'a pas continué sur ce sujet, parce que il est stupide cet homme-là. Il lui a donné un autre exemple frappant. Il lui a dit: فإن الله يأتي بالشمس بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. C'est-à-dire Dieu fait qu'il ramène le soleil de l'est. Toi, tu peux pas la ramener de l'ouest. Alors là, فبهت الذي كفر, ça veut dire celui qui y a mécru, il s'est tué. il était bouche bée, donc il pouvait pas parler, la réplique lui a été donnée. Donc ça, c'est une preuve de l'extrême intelligence des prophètes. Et ça montre aussi, c'est une preuve ici, la preuve qu'il a donnée, c'est Sayyiduna Ibrahim, que le soleil, donc il bouge, donc il peut pas être Dieu. Et le fait que ces créatures changent, elles ont besoin de qui les fait changer. Donc Dieu, lui, ne change pas. Et ça montre aussi, donc ce qu'on verra aussi, le fait que Ibrahim, il répliquait à son peuple que le soleil, la lune, ça mérite pas la divinité. Donc pareil, certains, ils peuvent donc lire tout seul et comprendre, donc ils pourraient interpréter mal les versets. Donc le Coran, il est cité, c'est Ibrahim, il dit « Hadha Rabbi ». Ici, c'est cela veut dire « Est-ce cela mon Seigneur ?» comme vous le prétendez. Donc c'est une interrogation de négation pour les désavouer et leur renier leur croyance. Le sens était donc « Est-ce cela mon Seigneur ?» comme vous le prétendez. C'est-à-dire selon vous. Donc ça, ce qu'on a cité avec le roi mécréant, ça montre que Sayyidina Ibrahim, bien sûr, ici, il réplique à son peuple, il sait bien que ce qui change, comme il a dit, inni la uhibbul afilin. Ce qui signifie, je n'adore pas les choses qui disparaissent, qui changent. C'est-à-dire, la raison réfute la validité et la divinité pour l'astre, le soleil ou la lune. Il n'accepte pas qu'on adore autre que Allah, car toutes ces choses apparaissent et disparaissent. Elles ont des dimensions, ce qui est autant de preuves qu'elles ont été créées, ils ne peuvent pas être créatrices. Elles changent d'un état à un autre. Il lui a dit, Dieu fait, ramène le soleil, donc de l'est vers l'ouest. Donc, elles ont bien besoin de qui les fait changer, et celui qui change ne peut pas être Dieu. Et on a dit d'ailleurs la preuve que l'islam est la seule vraie religion, car le soleil, la lune, les astres, les animaux, les humains, les arbres, la lumière, tous ces que les non-musulmans adorent, ça peut pas être Dieu, parce que ça a une forme, une quantité, une localisation. Donc, ça a besoin de qui le fait changer d'un état à un autre. Donc, voilà la preuve, donc, de l'extrême intelligence des prophètes. Il aurait impossible mensonge, il ne monte jamais. Donc aucun prophète n'a menti, même avant sa mission de prophète. Aucun prophète n'a menti, même avant sa mission de prophète. Depuis le jeune âge, ils sont préservés en fait, les prophètes. La trahison, la stupidité aussi leur sont impossibles. Ils sont préservés de la mécréance aussi. Aucun prophète n'a adoré autre que Dieu, ils sont préservés, ils ont la bonne croyance, les prophètes. Donc le prophète Mohammed, il était connu parmi son peuple, qu'il n'a jamais adoré leur statue, qu'il ne jurait pas par leur statue. Il était connu par cela. Et donc d'ailleurs, une fois, avant la révélation, quand le prophète était, il a travaillé pour Khadija, pour faire du commerce, et celui qui était au service de Khadija, il l'a remarqué dans le marché, quelqu'un lui a dit, pour une transaction, jure par Allat et Al-Uzza, c'est-à-dire les statues qu'ils adoraient, les Arabes mécréants, il lui a dit, je n'ai jamais juré par cela et je ne jurerai pas. Et il a aimé cela, le client en fait, et il a cru en sa véracité. Il a remarqué cela, donc Maïsara, qui était celui qui était au service de Khadija, il a rapporté cela et autres choses étonnantes qu'il a vues du prophète. Ils sont préservés de la mécréance, aucun prophète ne commet la mécréance, ni aide à la mécréance, ni n'approuve la mécréance. Donc ça, c'est une règle en islam. Aider au péché, c'est un péché. Aider à la mécréance, c'est de la mécréance. On peut pas inciter quelqu'un à faire la mécréance ou à prononcer la mécréance parce que aider au mal, c'est un mal. Donc on peut pas donc aider à faire un péché comme voler ou boire de l'alcool et on peut pas encore moins aider à la mécréance. Donc on peut pas pousser donc quelqu'un ou l'inciter d'une manière ou une autre à faire ou à dire la mécréance. Tout comme on peut pas inciter quelqu'un à voler ou à faire un blasphème ou faire un homicide. La mécréance est encore plus grave. Ils sont préservés aussi, les prophètes, des maladies repoussantes. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ma ba'atha Allahu nabiyyan illa hasan al-wajhi, hasan al-sawti, wa inna nabiyyakum ahsanuhum wajha wa ahsanuhum sawta. » Ce qui signifie « Dieu a envoyé les prophètes tous avec un beau visage, une belle voix. » et certes, votre prophète a le plus beau visage et la plus belle voix d'entre eux. » Rapporté par At-Tirmidhi. Tous, ils ont un beau visage, une belle voix. Donc Adam, premier homme, premier prophète, il a une belle apparence, bien évidemment. Et on a dit, c'est un blasphème de dire que c'était un singe ou il avait un aspect repoussant. C'est le premier homme, premier prophète. Il avait une belle apparence et on a vu, il a un grand mérite sur les humains. Dieu lui a donné toutes les connaissances de base et c'est lui qui a enseigné aux humains. Semer le blé, faire le pain, le tissage, les habits, la forge, etc. Il avait une belle apparence, bien sûr. Et celui qui a le plus belle apparence, c'est Muhammad, alayhi salatu wassalam. Donc, Youssef, ça vient après Muhammad. Parce que le prophète, il a vu que Youssef, lui a été accordé la moitié de la beauté qui était donc distribuée aux humains. Et Muhammad, alayhi salatu wassalam, il lui a été accordé toute la beauté. Donc il est cité dans Surat Yusuf, que tellement il avait une belle apparence, Yusuf, que les femmes se sont coupées les mains. Bien sûr, le prophète Yusuf, il est préservé. Les prophètes, ils sont préservés des grands péchés. Comme la fornication, le suicide. C'est la femme du dignitaire qui voulait faire la fornication et Yusuf, il l'a repoussée. Et c'était la preuve citée dans le Coran que elle a déchiré son vêtement par derrière. C'était une preuve que c'est elle qui voulait qu'il a couru derrière lui en fait. Donc lui, il voulait la repousser. C'est ça le sens du verset, mais après il est parti. Parce que Dieu lui a inspiré que si tu la repousses, elle va mentir. Et elle va dire c'est lui qui voulait faire la fornication. Et effectivement, elle a menti quand même parce quand elle l'a poursuivi par derrière, elle a déchiré son vêtement et là, il y avait son mari qui est venu. Et tout de suite, elle a menti en disant que c'est lui qui voulait lui faire, donc l'accuser de vouloir faire la fornication avec elle. Et ils ont vu la preuve, Dieu lui a donné donc un miracle, une chose extraordinaire. Dieu donne aux prophètes des choses extraordinaires pour confirmer leur véracité. Et donc un bébé, un nourrisson a parlé. Il a dit regardez, si son vêtement il est déchiré par devant, alors il a menti et elle a dit vrai. Et si c'est déchiré par derrière, alors il a dit vrai et elle a menti. Et il a vu son mari que c'était son vêtement déchiré par derrière. Donc c'est elle qui voulait et c'est pas lui. Donc ils sont préservés de vouloir faire la fornication. Donc faire attention, donc dans certains livres, ils attribuent cela au prophète. Donc on appelle ça, les savants, ils appellent ça l'israéliette. C'est-à-dire des mensonges dites par des fils d'Israël sur les prophètes. Ils disent qu'un prophète, il a bu l'alcool, ou il a mangé le porc, ou il a voulu faire il a mal parlé à sa mère, ou il a voulu faire la fornication. Ou voulait prendre la femme de quelqu'un alors qu'elle était mariée, il voulait l'envoyer se faire tuer, etc. Et tout ça, les savants ils appellent ça israéliyat, c'est-à-dire les mensonges des gens du livre sur les prophètes. Et certains ils copiaient des fois et des fois pour mettre en garde et des fois donc il faut savoir une chose importante, des savants comme l'imam Nawawi, c'est arrivé qu'ils disent aux gens laver mes livres, certains de mes écrits, parce qu'avant l'encre c'était, elle partait avec de l'eau, parce que ils ont appris les savants, mais on jette pas quelque chose, il y a le nom de Dieu, même s'il y a des erreurs, on jette pas parce qu'il y a le nom de Dieu, on brûle, on lave. Avant, il lavait facilement parce que l'encre, c'était pas comme maintenant, c'est chimique, elle s'enlève pas avec de l'eau. Où il faut des mois pour qu'elle s'enlève. Avant, elle s'enlevait facilement avec de l'eau. Donc, il disait des fois, quand Nawawi a été reporté, il dit, il lavait mes livres. Parce que certains livres, il dit qu'il s'est pas concentré assez ou il n'a pas relu, il n'a pas relu. Donc, parce que ça arrive aux humains, c'est pas les communs des humains, c'est pas des prophètes. Les prophètes sont préservés du lapsus. Lapsus, c'est tu dis une chose autre que ce que tu voulais dire. Tu voulais dire une chose, ça sort autre chose. Et tu voulais écrire quelque chose, tu écris autre chose. Ça arrive aux humains, pas aux prophètes. Donc ça arrive, vous savez, ce genre de choses. S'il relit pas, donc lui, c'est pas noté sur lui. Des fois, ça nous arrive, on écrit quelque chose et après on relit. On dit, ben non, j'ai écrit n'importe quoi là. Mais quand on a écrit, on n'a pas fait attention. C'est pas noté sur nous. Le lapsus de langue ou d'écriture, c'est pas noté sur nous. Et c'est pas noté sur les savants. Mais après, quelqu'un, il vient, il lit son livre derrière lui sans l'avoir eu par transmission. Et il croit que cette erreur grave, des fois ça peut être une erreur de mécréance, mais c'est pas noté sur toi, t'as écrit sans faire attention. Mais celui qui vient derrière, il lit, lui, il est conscient, il croit à cette chose contraire à la religion, lui, il s'égare. C'est pour cela, les savants eux-mêmes, leurs livres, ils les transmettent avec chaîne de transmission. Donc il se peut que certains écrits, même de savants, c'était écrit sans faire attention. Il n'a pas relu, il n'a pas relu. Et des fois, il voulait dire un discours rapporté, il a oublié. Donc, c'est pour cela, il faut la chaîne de transmission. Donc, faire attention, on l'a dit. Donc, certains livres étaient écrits dedans des fausses histoires que disaient les gens du livre. Parce qu'on a dit les gens du livre. On a parlé la fois précédente. Il y en a ceux qui sont convertis, qui ont cru au Muhammad, c'est des gens du livre musulman. Ceux qui ont suivi Jésus pour de vrai à son époque, c'est des musulmans. Ceux qui ont suivi Moïse à son époque pour de vrai sont musulmans. Mais ceux qui ont, après quand Jésus est venu, ils ont renié Jésus, c'est des mécréants. Après quand Muhammad il est venu, ils sont devenus mécréants. Ou certains ils ont dit Dieu est pauvre, certains ils ont dit Dieu se fatigue, etc. C'est des gens du livre mécréants. Mais ceux qui sont cités croyants dans le Coran, c'est ceux qui ont cru. On l'a vu la fois précédente. Donc il faut revoir le cours de la fois précédente. Donc les gens du livre, donc ceux qui n'ont pas cru en Mohammed, c'est des mécréants. Parce que pour être croyant, il faut croire en tous les prophètes. Car celui qui ne croit pas en Jésus ou Moïse aussi, il est mécréant. Il faut croire en tous les prophètes sans exception. Ça, c'est parmi les piliers de la foi. Donc il y en a, ils ont falsifié des dires sur les prophètes. Donc les prophètes, aucun prophète ne voulait faire les grands péchés comme la fornication ou se suicider. Donc on va voir aussi que Mohammed alayhi et Younes, donc c'est arrivé aux deux prophètes quand ils voulaient se lancer ou dans l'eau pour Sayyidina Younes ou du haut de la montagne pour le prophète Mohammed, ce n'est pas pour se suicider. Parce que les prophètes, ils savent qu'ils ont un degré. Comme Khalid ibn al-Walid, c'est un compagnon, c'est pas un prophète. Il a un degré inférieur à Abu Bakr et Omar, et pourtant, une fois, on lui a ramené du poison. Il a dit, Bismillahilladhi la yadurru ma'a ismihi shay' fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'u al-alim. Il a bu le poison. C'est pas pour se suicider, parce que il sait qu'il a un niveau de saint et qu'il a le secret. Comme certains, donc gens pratiquants de haut niveau qu'on appelle saints. Donc le meilleur des saints c'est Abu Bakr al-Siddiq. Donc les saints c'est cité dans le Coran, comme Maryam la mère de Isa. Dieu leur donne des prodiges, des secrets. Donc il est cité dans le Coran qu'elle avait des fruits d'hiver en été, des fruits d'été en hiver. Et à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas de frigo. Et il est cité un saint qui a ramené le trône de la reine de Saba, Bilqis, en très peu de temps. C'était un saint de l'époque du prophète Sulayman, qui suivait Sulayman. Les saints, c'est ceux qui suivent correctement les prophètes, en accomplissant tous les devoirs, en évitant tous les interdits, et en persévérant sur des choses surrogatoires. Donc ça c'est confirmé dans le Coran. Donc on a dit les prophètes sont préservés. Donc quand Khalid ibn al-Walid il a bu le poison en sachant que Dieu le protège, et quand c'est arrivé, donc si les saints ils savent qu'ils ont certains secrets, que dire les prophètes? Les prophètes, il faut savoir, ils savent qu'ils sont prophètes, ils savent qu'ils vont aller au paradis. Il faut pas, ou s'il y a des histoires fausses où ils attribuent aux prophètes d'avoir peur d'aller en enfer ou des choses comme ça, ça c'est complètement faux. Déjà il y a des gens qui sont pas prophètes comme Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, les 10 et d'autres que le prophète il lui a dit, il a dit dans le hadith à Abu Bakr dans le paradis, Omar dans le paradis. Donc si le prophète leur dit ça, ils n'ont pas le droit de croire le contraire. Bien sûr, ça a une autre règle aussi. Donc Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, quand le prophète il dit vous êtes au paradis, ils ne doivent pas douter, ils ne doutent pas d'ailleurs. Donc il faut faire attention aux histoires aussi, d'autres histoires qui contredisent ces règles-là. Vous voyez, des règles. Quand le prophète lui dit tu es au paradis, il ne va pas dire ah peut-être je vais aller en enfer. Non. Ils savent qu'ils vont au paradis, mais quand même ils ont la crainte. Othman, il pleurait. Il passait toute la nuit à réciter le Coran dans une seule raka, il pleurait jusqu'à mouiller sa barbe, etc. Muhammad, alayhi salatu wa salam, il pleurait aussi de crainte de Dieu. Pourtant, il sait qu'il va au paradis. Quand il pleure de crainte de Dieu, ça veut pas dire qu'il a peur d'aller en enfer. Ils savent bien qu'ils vont au paradis. Les prophètes, ils savent bien qu'ils sont les meilleurs des créatures. Ils savent cette croyance-là. Et donc, ils savent qu'ils ont des secrets. Quand le prophète il voulait se lancer du haut de la montagne, il savait que Dieu le protège. Ce n'est pas pour suicider. Parce que d'ailleurs, ici, même en classe, enseigné, même ici, en France, ils disent le prophète il veut se suicider. Donc ça, c'est un blasphème. Dire qu'un prophète il veut se suicider, c'est contraire. Donc celui qui croit ça, c'est pas un musulman. Car ça, c'est un grand péché. C'est le deuxième plus grand péché après la mécréance de toutes ces sortes, bien sûr. Le plus grave péché, c'est donc l'homicide. Tuer l'âme que Allah a interdit de tuer. Donc y compris se tuer soi-même. Donc les prophètes sont préservés de pareilles choses. Le prophète Younes, pareil, quand il voulait se lancer dans l'eau, il savait que Dieu le protège. Et Dieu a fait qu'une la baleine là. Il est rentré dans le ventre de la baleine et elle ne lui a pas nui, il est sorti indemne. Donc ça c'est une règle très importante. Ils sont préservés des grands péchés et des petits péchés de bassesse. Les petits péchés de bassesse, ils ont dit les savants, comme jeter des regards furtifs vers les avec désir ou vers les femmes, ou voler un grain de raisin, ce qui indique une bassesse aux yeux des gens. Non, les prophètes sont préservés de cela. Les prophètes ont tous une belle apparence, ils sont préservés de tout ce qui repousserait les gens d'accepter leur appel. Ainsi, il ne leur arrive pas des maladies qui repoussent les gens, comme la lèpre, ou des mauvaises odeurs, ou des choses comme ça. Dieu a la sagesse absolue. Il n'envoie pas des prophètes qui repoussent les gens. Donc Dieu, il a accordé aux prophètes des caractéristiques. Il a fait d'eux les meilleurs des gens, physiquement et intellectuellement. Donc ainsi, comme on a vu la beauté de Youssef, la beauté du prophète Muhammad dans le hadith, et Youssef dont il est cité dans le Coran, tellement il avait une belle apparence que les femmes se sont coupées les mains. Donc ça montre clairement que c'est faux ce que certains disent. Bien sûr, ça c'est ce que disent donc les histoires erronées que disent les gens du livre sur le prophète Ayoub, Job. Ils disent qu'il avait des vers qui sortaient de son corps, et après qu'ils les remettaient en leur disant mangez de ce que Dieu vous a donné. Ça c'est complètement faux. Donc le prophète Ayoub, il est cité, il est resté malade 18 ans, maladie douloureuse, mais pas les maladies repoussantes. Donc il est possible au prophète d'avoir des maladies douloureuses, mais pas des maladies qui repoussent les gens. Ils sont préservés de cela. Et en plus, il rajoute comme donc chose fausse et grave qu'il remet les vers en leur disant « Mangez de ce que Dieu vous a donné ». Alors, si on voit quelqu'un faire ça, qui va écouter cette personne ou demander conseil à cette personne? Donc c'est contraire à la sagesse. Et c'est interdit de se nuire en islam. Donc ça, c'est l'histoire erronée qu'on appelle l'israéliette, c'est les mensonges dits par les gens du livre, les mécréants des gens du livre. Voilà, donc le prophète, il est tombé malade, 18 ans, et Dieu l'a soulagé. Mais c'était pas une maladie que repoussent les gens. Comme le prophète, alayhissalam, il arrivait qu'il avait mal de tête, ou il s'évanouissait, ou les compagnons, ils sentaient sa fièvre par à travers même les draps. Et le prophète disait, nous les prophètes, l'épreuve nous est multipliée et la récompense aussi. Donc les fortes fièvres, les douleurs, etc., l'évanouissement, ça arrive aux prophètes. Mais pas ceux qui repoussent les gens. De même, les prophètes ont tous une belle voix et parlent de façon compréhensible. Il n'est pas permis de croire que le prophète Moussa bégayait. Certains, ils rapportent ces choses-là. Donc, il n'est pas permis de croire qu'il bégayait ou parlait de façon non compréhensible, car ceci contredit le statut du prophète, qui doit transmettre la religion. Comment il va transmettre? Comment il veut parler? Donc, c'est pour cela, on a vu le hadith, qu'ils ont tous un beau visage et une belle voix. Donc, attribuer au prophète le fait de ne pas savoir parler, ça c'est un blasphème qui annule l'islam. C'est contraire au statut de prophète. Ce qui est cité que prophète Moussa, alayhi salam, donc le fait qu'il a mis une braise quand il était enfant dans le palais de Pharaon pour une sagesse, pour être sauvé du fait d'être exécuté par Pharaon, et il a entre la date et la braise, il a pris la braise quand il était enfant, parce que il a tiré la barbe de Pharaon et il s'est énervé, il voulait le tuer. Esia, son épouse, il a dit mais lui il sait pas, il c'est un enfant, parce que Esia, son épouse, était musulmane. La loi de Moïse était permis une musulmane se marier avec un non-musulman. Comme on l'a vu l'autre fois, les lois des prophètes changent, mais dans la loi du prophète Mohammed, ce n'est pas valable. Une musulmane se marier avec un non-musulman, ce sera donc une relation dans l'interdit. Ce ne sera pas un mariage valable islamiquement. Donc, si elle était mariée, elle était musulmane, fait partie des meilleures femmes de l'humanité. Et ça, c'est une preuve que Dieu n'est pas obligé de donner à l'être humain ce qui est le mieux. Pharaon, il a fait de lui un des pires mécréants, et Asya, une des meilleures musulmanes. Donc, lui a dit, il ne sait pas, il a dit, je vais le tester, et puis, il lui a donné une braise, une date, et Dieu a fait que, c'est une épreuve de la part de Dieu, qu'il prenne la braise. Et l'uqda qui est cité dans le Coran, ils ont dit les savants, c'est une légère lenteur, mais c'était une parole compréhensible. Les prophètes, ils ont des paroles compréhensibles, ils bégayent pas ou des choses de ce genre. Donc faire attention, c'est pas, donc quand on parle des prophètes, c'est donc très important. C'est pas des choses qu'on prend à droite à gauche, des films, des dessins animés à droite à gauche, là. C'est pas, on parle pas de personnes du commun, là. Donc il y en a, ils regardent films soi-disant sur Youssouf ou sur le prophète. Non, c'est pas comme ça la religion. C'est quelque chose de très important, c'est le sujet de la croyance. Donc As-Suki a dit dans son tafsir, la communauté est unanime sur la préservation des prophètes concernant la transmission de la révélation, c'est-à-dire ils transmettent, et sur d'autres choses telles que la préservation des grands péchés et des petits péchés de bassesque qui porteraient atteinte à leur rang, ainsi que de persévérer sur les petits péchés. Ces quatre choses-là sont par unanimité. page 256, tome 2 du livre Al-Khasa'is al-Kubra de As-Suyuti. Que Dieu lui fasse miséricorde. Donc il y a unanimité que les prophètes sont préservés des grands péchés, des petits péchés de bassesse et donc de la mécréance aussi. Donc ça est de persévérer sur les petits péchés. Ici, ça veut dire aussi que la majorité des savants de l'islam, ils ont dit, c'est possible au prophète de commettre un petit péché qui ne comporte pas de bassesse, mais ils se repentent avant que d'autres ne les suivent en cela. Donc ça, c'est la majorité des savants qui ont dit cela. Donc les petits péchés de bassesse, il y a unanimité qu'ils ne commettent pas cela. Et persévérer sur les petits péchés, il y a unanimité, ils sont préservés de cela. Mais qui commettent un petit péché de bassesse, donc qui commettent un petit péché de bassesse, on l'a dit, c'est donc ils sont préservés de cela. Mais la majorité des savants, suite au verset qu'on va citer, où Adam il a commis, l'histoire très connue, unanimement connue, que Adam il a commis un petit péché, il a mangé du fruit de l'arbre duquel Dieu lui a interdit. Il s'est repenti, Dieu lui a pardonné. Donc c'est pas un grand péché, ni péché capital, on dit pas qu'il a été viré, chassé, ça n'a jamais été employé, chassé, viré du paradis. Ce qui était cité dans le Coran, le Hadith, Dieu l'a fait sortir du paradis, il est descendu sur terre, des choses de ce genre. Mais jamais il a été cité des sens de chassé ou viré du paradis, non. Il a fait un petit péché, khati'a, comme dans le hadith, lamma qtarafa adamul khati'a. C'est un petit péché, il s'est repenti, d'ailleurs il a demandé par le degré de Muhammad, parce qu'il a vu écrit le nom de Muhammad sur les piliers du trône, il a su que c'est la créature que Dieu agrée le plus. Muhammad, il a demandé à Dieu par le degré de Muhammad. Et donc, il s'est repenti. Donc c'est possible qu'il commette un petit péché qui ne comporte pas de bassesse et se repente avant que d'autres ne les suivent. Comme le prophète Younes dont on a parlé, il a été éprouvé par la baleine parce qu'il a commis un petit péché, il est sorti de son peuple, parce que il a désespéré de son peuple, il les appelait à l'islam, la plupart ils n'ont pas cru, il est sorti avant d'avoir l'autorisation de sortir. C'était un petit péché qui ne comporte pas de bassesse. Donc ils se repentent avant que d'autres ne les suivent en cela. Donc il y a très connu cette histoire Sayyidina Adam et d'autres versets qui montrent que les prophètes, c'est possible qu'ils commettent un petit péché, y compris le prophète Muhammad alayhi salatu wasalam, comme si c'était wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat, demande pardon pour ton péché et pour les croyants et les croyantes. Donc ils ont dit, c'est possible qu'ils commettent un petit péché et ils se repentent avant que d'autres ne les suivent en cela. Donc c'est une minorité de savants, ils ont dit non, même pas les petits péchés. Donc alors, la majorité des savants, bien sûr en islam on suit la majorité. Bien sûr on parle des savants sunnites ici, des vrais savants sunnites. Donc ils se repentent avant que d'autres ne les suivent en cela. Voilà la règle. Donc c'est précis la religion. C'est pas des avis personnels ou les idées personnelles ou des recherches personnelles. C'est pas comme ça la religion. Ça prend des gens de confiance et des savants. On parle de vrais savants de l'islam. Donc Allah Ta'ala a envoyé les prophètes afin qu'ils démontrent la validité de la religion de l'islam et qu'ils la propagent. Donc on va revenir sur ça. Donc on a dit les prophètes, donc voilà, on a vu ça tout à l'heure, une période, la révélation s'est interrompue sur le prophète pour alléger sa nostalgie. Le prophète voulait se lancer du haut de la montagne tout en sachant que cela ne va pas lui nuire et que Allah le préserve. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il n'est pas permis de dire que le prophète voulait se suicider, car les prophètes sont préservés des grands péchés. Donc, et attribuer cela au prophète et de la mécréance qui fait sortir de l'islam. Donc on a vu pour l'histoire de Sayyidina Yusuf aussi, pour Adam, pour Sayyidina Ibrahim. Donc il aurait impossible de commettre les grands péchés comme le suicide avant la prophétie, tout comme après. Aucun prophète n'a jamais bu l'alcool, ni volé, ni commis la fornication. Aucun prophète n'a jamais voulu se suicider ou faire la fornication. De même, bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, c'est faux que ce que prétendent certains menteurs, à savoir que le prophète David, alayhi salam, aurait été séduit par, donc selon ces gens, c'est dit par les mécréants des gens du livre, ils disent ça. Ce qu'on appelle les israéliettes, on a dit tout à l'heure. Ils disent qu'il aurait été séduit par la femme du commandant de son armée, qu'il aurait envoyé ce commandant d'armée à la guerre afin qu'il soit tué, qu'il lui prenne son épouse. Ce récit constitue un mensonge et n'est pas digne du statut de prophète. Donc c'est pas digne des statuts de prophète, c'est ce genre de choses. Eux, ils considèrent même pas Daoud comme un prophète, ils disent c'est un roi. Alors en islam, dans le Coran, c'est un prophète, c'est un roi. Donc, et c'est faux aussi, ils disent que son pouvoir, dit sur Daoud ou Suleiman, que leur pouvoir était sur Suleiman. Ils disent que son pouvoir c'était une simple bague. Donc, voilà, on dirait qu'il parle d'un dessin animé. Donc, c'est faux. Le prophète, c'est pas dans une simple bague, et que ça part la bague, il a perdu son pouvoir. C'est complètement faux. Il raconte cette histoire que soi-disant Iblis lui a pris sa bague et puis c'est lui qui a pris le pouvoir à sa place. Donc c'est vraiment n'importe quoi. C'est pas une simple bague leur pouvoir. Les prophètes, qui perdent la bague, ça il a perdu le pouvoir. Non. Ça c'est complètement faux. Donc et Shaitan il peut pas rentrer dans le corps des prophètes, bien sûr. Donc on l'a vu sur le prophète Ayoub. Aussi, de même, il faut savoir que les prophètes, ils sont Sayyidina Sulayman, ils donnaient tous les jours, ils égorgeaient des centaines de bêtes et donnaient de manger aux gens. Et lui, il mangeait du pain d'orge avec du lait fermenté. Leur cœur, il est attaché dans l'au-delà. Ils sont ascètes, ils sont le plus ascètes les prophètes. Donc, ils sont pas attachés au plaisir mondain, ni aux femmes, donc y compris Muhammad alayhi salatu wa salam. Donc, le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, le fait qu'il avait plusieurs épouses et les autres prophètes aussi. Donc, ils avaient plusieurs épouses, c'est pas parce qu'ils avaient le cœur attaché aux femmes du tout. Donc, c'est pour certaines sagesses parmi lesquelles donc les femmes vont transmettre la religion qu'elles apprennent aux femmes plus facilement. Le prophète Mohammed alayhi wa salam, donc il avait une très belle apparence, il s'est marié 25 ans avec une femme qui a 15 ans de plus que lui, environ 40 ans, Khadija, qui était mariée deux fois avant lui, qui a des enfants avec d'autres. Donc ça montre bien qu'il n'est pas il n'a pas le cœur attaché aux femmes, alors qu'il avait la plus belle apparence. Donc, dans l'absolu, et puis parmi sa tribu. Il ne s'est marié après elle qu'après sa mort. Et donc, le prophète, il a, par le fait qu'il s'est marié dans plusieurs tribus, ça a renforcé le lien avec les tribus, parce que il y avait des guerres entre les tribus depuis avant le prophète, alayhi salatu wa salam, et le fait qu'il s'est marié dans plusieurs tribus, ça a renforcé les liens. Et puis les femmes enseignaient donc facilement avec pour les femmes surtout sur la purification, les menstrues, etc. Et elles rentraient donc plus facilement avec les femmes, parce que le prophète lui-même il serrait même pas la main aux femmes. Donc une femme s'assoit facilement avec une femme et puis elle peut expliquer la religion, etc. Et les épouses du prophète, elles ont fait cela. Et bien sûr, les Arabes ne l'ont jamais blâmé, même les mécréants sur ça, parce que pour eux, c'était pas quelque chose de blâmable. Et toutes les femmes qui, donc, quasiment toutes les femmes avec lesquelles il s'est marié après, c'était des femmes qui étaient veuves ou divorcées. Donc, la seule qui était, donc jeune fille, on va dire, vierge, c'était Aïcha. Et elle disait, quand c'était ma nuit, donc souvent le prophète, elle a dit, ça arrivait au prophète qui sortait, il faisait au cimetière à côté, il faisait doua pour les musulmans. Donc, il faut également prendre garde à ne pas croire ce que disent certains faibles d'esprit sur le prophète Mohammed. Il propage à qui veut les entendre que son cœur était attaché aux femmes et que c'est la raison pour laquelle il aurait épousé plus de 4 femmes. Donc on a vu la réponse, comment le prophète était préservé, etc., honnête de son peuple. Ils l'ont jamais attribué ces bassesses-là, même ceux qui l'ont calomnié. Donc parmi ce qui constitue une preuve qu'il n'était pas attaché aux femmes, il y a ce qu'a rapporté Muslim d'après son époux, l'épouse du prophète Aïcha, que Allah l'agré, qui a dit: lorsque ma nuitée venait, le prophète rendait visite au cimetière de Al-Baqi. Ainsi, il se rendait au cimetière des musulmans à Médine pour faire des invocations en leur faveur, et cela malgré la beauté et le jeune âge de notre dame Aïcha. Donc les prophètes sont obligatoirement caractérisés par l'extrême intelligence. De ce fait, l'idiotie, le manque de sagesse sont impossibles à leur sujet, car ils ont été envoyés pour énoncer la vérité. Il ne convient donc pas qu'ils soient incapables d'établir les preuves contre ceux qui renient la vérité et qui la prennent pour ennemi. Allah Ta'ala dit: وَتِلْكَ حُدَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ. Ce qui signifie: et ceci est notre preuve que nous avons accordée à Ibrahim. Sourate Al-An'am. Donc, bien sûr, ils ne sont pas lâches, les prophètes. Ils sont courageux. Le prophète, il a émigré sous ordre de Dieu, mais ce n'est pas par lâcheté. Ils sont courageux, les prophètes. Donc, on ne dit pas aussi, il est également interdit de prétendre que le prophète Mohammed aurait perdu ne serait-ce qu'une des batailles qu'il a menées. Les prophètes sont gagnants. Ils ne sont pas perdants, parce que celui qui a la vérité, c'est lui qui est gagnant. Même si le prophète a été blessé dans une bataille, suite notamment la bataille de Uhud, parce que il a mis des gens pour protéger l'arrière des musulmans contre la cavalerie des mécréants, avec des archers, donc des flèches, et ils n'ont pas écouté l'ordre du prophète. Quand ils ont vu le recul des mécréants, ils sont descendus, mais le chef des archers, il est resté avec quelques hommes. Et ils ont été attaqués par Khalid ibn al-Walid, notamment, qui était mécréant à l'époque. Et beaucoup de musulmans sont morts à cause de ces gens-là. Ils n'ont pas écouté le prophète. Mais le prophète, on ne dit pas qu'il a perdu. Donc le prophète est demeuré sûr. Et ce sont ceux qui n'avaient pas obéi à ses ordres qui ont été momentanément défaits. Ils ont subi les musulmans des pertes à cause... ces gens-là qui n'ont pas écouté les ordres du prophète. Donc on ne dit pas qu'il a perdu. Il a subi des blessures, ils ont jeté des choses sur lui, etc. Mais il est gagnant. Parce que ça augmente, il a des récompenses pour tout cela. Donc au final, il est gagnant. Et ceux qui perdent, c'est ceux qui combattent le prophète. Donc, il est de même interdit de prétendre qu'il aurait fui de la Mecque lorsqu'il a émigré à Médine. Donc, les prophètes, comme on a vu, ils ne mentent pas. Donc, on reviendra sur certaines histoires, on les expliquera sur les prophètes. Donc, le prophète ne savait pas lire ni écrire. Donc, ça, c'est une chose. Dieu a accordé au prophète cela, il a fait que le prophète n'écrive pas et ne lise pas, pour appuyer sur sa véracité, en fait. Ça appuie sa véracité que c'est pas lui qui a composé le Coran, qu'il a pas copié sur Certains, ils l'accusent qu'il a copié des gens du livre, et alors tout le monde, il sait qu'il n'a pas appris à lire ni à écrire. Donc le fait qu'il ne savait pas lire ni écrire ne constitue pas un rabaissement, car la force intellectuelle et la capacité de réflexion et la perspicacité ne sont pas liées au fait de savoir lire et écrire. Donc c'est pas ça qui fait qu'on est intelligent. De plus, cela était une preuve que le Coran est bien révélé de la part de Dieu et n'est pas une œuvre, il n'est pas une œuvre du prophète. Donc aussi, on cite une chose importante au final, et on reviendra dessus, inshallah, avec d'autres histoires des prophètes expliquées correctement. Donc comme on l'a dit, les prophètes n'incitent pas à faire la mécréance et ne poussent pas à faire la mécréance. Donc, et la religion, c'est pas en lisant tout seul, donc les traductions, ou même quelqu'un qui lit le Coran en arabe tout seul, il essaie d'interpréter tout seul, il peut s'égarer. Le prophète, il a dit, le Coran est une hujjatun laka am alayk. Et le Coran est une preuve ou pour toi ou contre toi. Donc les prophètes n'incitent pas les gens à dire la mécréance, ils sont très intelligents. Ibrahim, il voit bien son peuple, et il adore des astres et des statues. Il va pas leur dire, vous adorez quoi? Alors qu'il sait, en islam, tu peux pas dire à quelqu'un, tu sais qu'il va répondre par ce qui est contraire à l'islam, tu peux pas lui dire, tu adores quoi? Tu dis quoi sur Dieu? Quelqu'un, tu sais qu'il n'est pas musulman, tu ne veux pas dire, tu dis quoi sur Dieu juste pour ouvrir la discussion. Non, il y a des règles dans l'islam. Dieu t'a interdit certaines choses. Aider à prononcer la mécréance, c'est de la mécréance. Parce que les péchés, c'est noté sur tout le monde. Même quelqu'un qui n'est pas musulman, à chaque fois qu'il va dire un péché, c'est noté un péché en plus de sa mécréance. Et à chaque fois qu'il va faire une mécréance, ça va faire une mécréance en plus. Donc c'est pour cela, quelqu'un qui veut se convertir, on ne peut pas lui dire, attends, on va te doucher, on va te circoncire. On est obligé de lui dire, dis les deux témoignages. Dis qu'il n'est Dieu que Dieu, que Muhammad est le messager de Dieu. Donc, le prophète, le Coran nous montre qu'on ne peut pas inciter, le Coran déjà nous montre dans des versets qu'on ne peut pas insulter, par exemple, des non-musulmans, leurs croyances, si cela mène à, donc, pour que cela ne mène pas au fait qu'il insulte Dieu. On ne peut pas provoquer le mal par une manière ou une autre. Par n'importe quelle manière, on ne peut pas provoquer le mal. Donc la mécréance, c'est un plus grand mal. Donc on ne peut pas venir quelqu'un juste pour ouvrir la discussion et il adore les statues, on ne va pas lui dire tu adores quoi? Mais il faut savoir, dans la langue, la question, elle est utilisée dans plusieurs sens. C'est pas forcément pour demander une information, pour blâmer des fois. C'est connu. Quelqu'un, il voit quelqu'un, il a fait une bêtise, comme son fils, par exemple, il dit, mais tu as fait quoi? Ça veut pas dire, raconte-moi ce que tu fais. Il voit bien ce qu'il a fait. Ça veut dire, c'est une question de blâme, ça s'appelle. Et des questions dans la rhétorique. Il y a plusieurs sens dans la question. Pour renier, aussi. Alors, on va voir dans le verset, li abi wa qawmi ma ta'budun. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Dans ces deux versets, les savants ont dit, ici c'est une interrogation pour renier, comme cela existe dans la langue. Exemple, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que tu dis? C'est pour renier leur adoration des idoles, les blâmer. En effet, Ibrahim alayhi salam n'a pas demandé à son peuple, lorsqu'il les a questionnés, de répondre qu'ils sont des mécréants, qu'ils adorent des idoles. Il ne les a questionnés que sur la nature même des idoles qu'ils adoraient, afin de leur montrer l'invalidité de l'adoration qu'il leur vouait. C'est-à-dire qu'il les a questionnés, c'est-à-dire ici, n'est-ce pas que vous adorez, ce sont des pierres, du bois et des métaux que vous avez vous-même façonnés de vos mains? Que vous avez taillé vous-même et sur lesquels vous avez agi, comment pouvez-vous les adorer? C'est une question pour blâmer en fait. C'est pas pour attendre une information. Comme ont montré Abu Hayyan, Al-Andalusi, Al-Razi et d'autres ont dit. Mais ici, c'est pour dire c'est quoi la substance de ce que vous adorez pour renier. C'est pas pour attendre une réponse. Pour dire, n'est-ce pas que ce sont des choses en pierre, en bois que vous avez fabriquées avec vos mains, vous avez façonnées et c'est vous qui avez agi sur elles-mêmes. Comment vous les adorez? Donc les savants ont montré cela. Al-Qunawi, dans son commentaire sur le tafsir al-Baydawi, a dit l'interrogation c'est pour renier, ce n'est pas pour demander l'information. Donc al-Ijji a dit dans al-Jami' al-Bayan, il a renié sur eux par cette interrogation, l'adoration des idoles. Les savants de Tafsir ont dit que le prophète Ibrahim sait qu'ils adorent des statues. Il ne va pas leur dire « Est-ce que vous adorez des statues ?» alors qu'il sait qu'ils adorent des statues. Donc l'interrogation, c'est pour les blâmer et renier leur adoration des statues. Et la règle fondamentale, il n'advient pas au prophète de faire le fait d'aider ou à prouver que les gens disent de la mécréance ou les poussent. Il ne les pousse pas ni les provoque à dire la mécréance. Allah Ta'ala dit وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. Il n'agrée pas la mécréance pour ses esclaves. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Aidez-vous pour le bien et la piété et ne vous aidez pas pour le péché et l'injustice. Donc il y a l'épreuve, comme on l'a dit, qu'on ne peut pas aider au péché et on ne peut pas provoquer la mécréance. Voilà, donc on y reviendra la prochaine fois, Inch'Allah. Donc fait réviser. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Et c'est important donc de réviser ces choses-là pour bien comprendre les règles donc de la religion comme il se doit. Parce que la religion s'apprend par transmission orale auprès de gens de confiance. Et attribuer au prophète ce qui n'est pas digne d'eux, notamment la mécréance ou le fait d'aider à la mécréance ou les rabaisser, c'est un blasphème qui annule l'islam de la personne. Et qui nécessite le retour à l'islam en attestant qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu. Donc, on y reviendra, Inch'Allah, la fois précédente. Et on révisera ces détails-là, Inch'Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alameen, sallallahu ala Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc il y aura le cours reste en ligne, les cours précédents restent en ligne et il y aura l'audio, ça sera dans la description de la vidéo. J'envoie aussi sur WhatsApp pour les questions, vous pouvez envoyer sur WhatsApp et ceux qui n'ont pas, envoyez le mail et vous aurez le WhatsApp. Et donc dans la description du cours aussi, dans le cours, l'article lui-même, il y aura aussi, donc il y a déjà une audio et il y aura rajout de l'audio. Donc après il faut recharger la page avec le bouton ou F5 après, donc je le mets Inch'Allah. Ça vous permet de réviser, Inch'Allah. Et c'est important, les savants ils disent de réécouter, réviser entre 5 et 10 fois quand on est très intelligent, quand on comprend du premier coup. On a besoin quand même de réviser plusieurs fois. Et n'oubliez pas l'application aussi. Donc, vous pouvez donc recevoir aussi les cours à télécharger sur l'application. Donc, les audios, on peut les télécharger sur Chrome et sur Opera. Opera et Chrome se ressemblent. Ça ouvre comme ça. Donc on peut télécharger. Sur Firefox, il faut, si c'est sur le téléphone, il faut appuyer, cliquer sur le lecteur et il propose de télécharger. Donc voilà. Barakallahu fikum. Il y a le mail sur le site. Sur le site, il y a le mail en bas. pour ceux qui envoient la. Donc j'envoie pas par mail, mais en voyant un mail, parce que les mails, il faut faire une liste, etc. Donc voilà le mail en bas. Et puis envoyer un mail, et ceux qui n'ont pas le WhatsApp, ils m'envoient, ils l'envoient sur mail, ils auront le WhatsApp. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد